affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va être consacrée à une rencontre improbable, étrange, singulière, quoique, et en tout cas certainement fructueuse, entre deux univers qui rarement se croisent. D'une part, celui de l'esprit d'enfance et d'innocence, d'autre part, celui de la musique contemporaine. Cette rencontre étrange, nous la devons au pianiste et compositeur Michael Levinas, qui a réalisé une adaptation du Petit Prince de Saint-Exupéry pour l'opéra, une œuvre qui est jouée actuellement au Théâtre du Châtelet à Paris, après l'avoir été dans plusieurs autres villes de France et d'Europe. Et dont nous allons commencer par écouter un court extrait. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Je vous présente brièvement. Vous êtes donc, je l'ai dit, pianiste-compositeur. Vous êtes également membre de l'Académie des Beaux-Arts. Vous avez adapté d'ores et déjà un certain nombre d'œuvres littéraires pour la scène lyrique. Je citerai pour mémoire une œuvre de Nicolas Gogol, une autre de Jean Genet ou encore de Franz Kafka. Cette fois, vous êtes donc emparé du Petit Prince. C'est un projet qui semble moins évident, pour la première question qui me vient, moins évident parce que le Petit Prince, après tout, c'est une œuvre qui s'adresse à la fois à des adultes et des enfants. Est-ce que ça ne complique pas la tâche ?
Mais c'est parce que vous m'avez enfermé dans le genre de la musique contemporaine que vous me posez la question. Et quand on dit musique contemporaine, on met là-dessus une connotation esthétique bien particulière qui est à la fois merveilleuse parce qu'elle a produit pas mal de chefs-d'œuvre, je pense à quelques œuvres majeures de notre patrimoine. Citons évidemment quelques œuvres de Stockhausen, je pense à Carré, à Momente, magnifique poésie de la déconstruction d'ailleurs. Bon, il y a les chefs-d'œuvre de Boulez, bien sûr, il y a tous ces textes sur Mallarmé, Le marteau sans maître. Bon, c'est des grandes choses. Maintenant, musique contemporaine veut aussi vouloir dire une musique où la perception serait tout de même liée à un accès qui ne peut pas se passer d'explication et qui serait élitiste dans un sens péjoratif, parce qu'élitiste dans le sens de l'écriture. Alors oui, dans Le Petit Prince, c'est une chance extraordinaire, effectivement, pour un musicien. Et effectivement, une extension de la notion du genre musique contemporaine, de dire que la contemporanéité, c'est de s'adresser à tout le monde, et non pas à un petit nombre.
Il ne faut pas se laisser intimider.
Il faut se laisser intimider, bien sûr. C'est toujours une grande responsabilité de s'adresser au grand nombre. Et c'est encore une plus grande responsabilité, et ça je le dis dans la maison qui honore la langue immortelle, que de s'adresser en français à l'humanité entière. Et cela, ça a été effectivement le privilège de Saint-Exupéry, en pleine période de catastrophe. Et on peut penser que ces catastrophes peuvent prendre d'autres formes, mais notre époque est difficile. Eh bien, c'est en langue française que le Petit Prince dit son fait à l'humanité et remet évidemment les valeurs au cœur de la question de l'humain. Et donc, cette langue française, je suis fier d'avoir fait ce travail et je suis intimidé, mais en même temps, j'ai été très engagé sur un projet et je ne pensais pas d'ailleurs qu'il aurait en plus une actualité absolument incroyable. Je ne parle pas de mon opéra, mais du message du Petit Prince. Parce que les événements qui viennent de se passer en France du 11 janvier et cette manière dont le monde entier s'est senti concerné par la façon dont les valeurs étaient bafouées, qui sont les valeurs de l'humain, et que tout cela se soit passé à Paris, ça veut dire que cette France, sa langue et ses valeurs et ce qu'elle a donné comme exemple au monde, eh bien, c'est encore bien là qu'une partie du cœur de l'humain est en train de battre.
Merci pour elle. Lorsque vous avez attaqué ce projet, pouvez-vous nous parler d'abord de la genèse du projet?
La genèse est assez étrange, comme souvent ça arrive. Je n'ai pas pensé véritablement à travailler sur Le Petit Prince. Et je me suis promené avec ma compagne qui enseigne notamment à l'université de Lausanne. À Lausanne, et j'ai rencontré le directeur de l'opéra de Lausanne qui m'a dit « Voulez-vous écrire un opéra pour les enfants ?» Et je lui ai proposé Peter Pan. Je lui ai proposé pour la raison suivante, c'est qu'il y avait quelque chose dans Peter Pan qui me frappait, mais qui n'était pas loin de ce que nous venons d'évoquer. C'est le moment où le capitaine Crochet demande aux enfants s'ils préfèrent être pirates ou être jetés à la mer. Et les enfants disent qu'ils préfèrent être pirates. Et Wendy, elle dit qu'elle veut être jetée à la mer parce qu'il y a un moment où le sacrifice est nécessaire. Et à ce moment-là, intervient le miracle de Peter Pan. Et il m'a dit, non, ne prenez pas ça, prenez le Petit Prince. Et après, il y a eu un enchaînement très, très, très étrange parce que effectivement, la maison Gallimard et la succession Saint-Exupéry montent ensemble témoigner de leur confiance sur ce texte-là. Ils m'ont laissé entreprendre ce qui, je crois, disons les choses prudemment, parce que pour un texte aussi célèbre, serait le premier opéra au sens, je dirais, de l'écriture, premier opéra en langue française sur Le Petit Prince. Et là, évidemment, bon, se sont reliés brusquement beaucoup d'opéras, dans un mouvement d'ailleurs étrange, qui témoigne aussi d'une époque justement où la notion de la contemporanéité n'est plus tout à fait celle de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire la certitude que ce projet concernerait, et je dis la chose avec non pas une manière d'affadir les choses, mais que ça concerne le grand public dans la mesure où le grand public d'abord aime aller à l'opéra, et où d'autre part, une œuvre lyrique peut être expérimentale, mais elle peut être à la fois expérimentale et en même temps concerner tout le monde. Et donc il y a eu le Grand Théâtre de Genève, le Théâtre de Lausanne, le Théâtre de Lille, l'Opéra de Lille, qui était déjà mon commanditaire de la Métamorphose, et puis le Châtelet, qui se sont reliés à ce projet-là. Et le travail a commencé. Travail assez 18e-iste.
Vous voulez dire par là?
Eh bien, c'est-à-dire que j'ai reçu une commande, je dirais, qui ne ressemble pas aux commandes habituelles du service public tel que nous l'aimons en France. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est parti de Suisse, cette commande, sans subvention de l'État, mais des subventions de l'opéra lui-même, qui a un sens des responsabilités reliées, je dirais, aux contraintes du marché. Et évidemment, dans un cadre très particulier, puisque Le Petit Prince étant une œuvre très grand public, et il faut le dire avec un impact commercial très large dans le monde, sous toutes les formes d'ailleurs, y compris les autres, tout ce que l'image du Petit Prince porte. Par conséquent, j'ai eu une contrainte d'écrire cette œuvre-là en 18 mois, de l'adapter, adapter et écrire en 18 mois, avec un contrat qui ressemble plus aux contraintes qu'on offre à un architecte que ceux qu'on croirait pouvoir donner à un musicien ou un poète qui aurait une liberté.
Il y a beaucoup de clauses.
Y compris des clauses de pénalité qui étaient liées à chaque retour, chaque retard de jour. Alors je vous le raconte, c'est pas tellement pour vous expliquer quelque chose simplement, mais ce serait pour poursuivre ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur la musique contemporaine. C'est qu'en réalité, ces clauses étaient clauses de très grande responsabilité sur l'enjeu que pouvait représenter pour ceux qui s'étaient engagés à prendre en charge cette œuvre et sa mission et son œuvre et son texte. Le compositeur avait une responsabilité qui limitait énormément sa liberté.
Mais elle est stimulante en même temps ou pas ?
Voilà, très stimulante et très, très perturbante, probablement dans le bon sens du terme aussi. Il me semble que c'est des modalités de relation avec la création qui ne vont pas tarder à se retrouver dans des lieux comme la France, me semble-t-il, à un moment où les questions économiques du soutien à la culture subissent des très grandes mutations.
Parmi ces contraintes, il y en a peut-être d'autres qui sont liées tout simplement à l'œuvre. Comment écrit-on un opéra en pensant à la fois à des adultes, à des enfants, en plus s'agissant d'une œuvre qui est quand même, vous l'avez dit, universelle, mais elle est universelle parce qu'il y a une multitude d'interprétations. Comment avez-vous procédé ? Vous en êtes imprégné, j'imagine, mais ensuite, est-ce qu'il y a un parti pris ? On choisit son petit prince, on reste dans l'entre-deux ? Comment fait-on ?
Il y a une phrase, un mot extraordinaire de Valère Novarina, un très grand dramaturge français, un des plus grands, quand il m'a remis prologue pour La Métamorphose. Je, tu, il, qui est une pièce d'ailleurs où aussi il l'a produite et donnée en tant que pièce très très développée au théâtre de l'Odéon, et c'est un très beau titre, Je, tu, il, d'ailleurs très proche de mon histoire familiale sur le plan intellectuel. Il m'a dit, prends ce qui te chante. Et en réalité, écrire un opéra, il y a un terme que je déteste, qu'on utilise souvent, mise en musique ou mise en opéra. J'ai entendu encore ça récemment chez des personnes tout à fait cultivées. Je ne mets pas en musique un texte. Un texte chante, il porte en lui l'opéra ou il ne le porte pas. Par exemple, dans Les Nègres, la première phrase, Mesdames, Messieurs, je suis Absalom Wellington, je crois que c'est ça le titre, le mot. C'est un rire d'orchestré des Noirs sur scène, comme il dit, les Nègres, lui, Genet, au sens le plus revendicatif, voilà, bien sûr. Cette phrase-là, elle portait en elle la musique. Il y avait de l'opéra dès cette première phrase. Ou bien, dans La Métamorphose, quand Grégor Samsa se réveilla un matin, il se trouva transformé en un énorme cancrelat. Cette phrase qui dort, qui se réveille avec les phonèmes, chante déjà. Donc dans Le Petit Prince, Le Petit Prince chante, bien sûr, mais bien sûr il chante avec la mémoire de tout le monde. C'est-à-dire que je savais que par-delà la question de cette double adresse, je dirais, dont on dira quelques mots, parce que c'est pas simplement de relier les impossibles, c'est-à-dire de pas dire d'un côté on s'adresse aux enfants, de l'autre côté on s'adresse aux adultes. C'est plus fascinant parce que le texte, comme vous l'avez bien dit, est un texte évidemment très allégorique, abordant les thématiques qu'on vient d'évoquer, notamment la question du lien. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'identité ? La question de l'identité est centrale dans Le Petit Prince, déjà dans son mode d'apparition, son mode de disparition, on verra comme c'est une dimension métaphysique, mais en même temps, la question du rite, la question de... Donc ce sont des éléments qui, on pourrait dire, sont difficilement accessibles à l'enfant, dit-on, encore, faut-il le savoir. La question du fascisme, c'est-à-dire, question très actuelle tout de même, faut-il bien discerner les herbes qui se ressemblent un peu toutes les mêmes au départ, il y en a qui vont être une rose qui n'a que 4 épines pour se défendre, et l'autre va faire exploser la planète. En même temps, question de l'écologie, c'est-à-dire faire exploser la planète, la défense de la planète. Bon, tous ces thèmes-là, évidemment, ont une forme, c'est-à-dire qu'ils sont une structure très souterraine du Petit Prince, très souterraine dans la mesure où ça structure l'ensemble du texte et ça permet notamment de dégager une trame théâtrale qui donne les lois, les principes, éventuellement des coupures dans une sorte de chirurgie microscopique qui me fait penser à la chirurgie très très avancée. Et cette chirurgie dans le travail du livret, qui était mon premier travail, bien sûr consiste, et c'est ce que j'ai fait aussi pour Jean Genet, à respecter le temps opératique du Petit Prince, qui est un temps qui ne supporte pas plus d'une durée d'1h20, parce que le Petit Prince porte en lui effectivement l'adresse à l'enfant, à l'intelligibilité, à la patience. Et par conséquent, le livre, quand vous le tenez dans les mains, il est un objet, je dirais, assez léger. Si vous le déroulez et si vous le chantez, ça serait très très long. Et dans la perception temporelle du spectacle et de l'œuvre, il faut arriver à retrouver cette légèreté si lourde du texte. Par conséquent, il faut arriver à trouver les éléments névralgiques du texte qui vont commander l'ensemble du texte et qui vont permettre de couper. Et c'est un peu ce que je viens de vous évoquer. En somme, donc le Petit Prince a subi des coupes, je dirais, d'après ce que m'ont dit les héritiers aussi, la famille et les spécialistes de Saint-Exupéry, une coupe insensible, une sorte de anesthésie des sutures. Et bien sûr, l'autre élément de travail était la question du théâtre, c'est-à-dire de supprimer le narrateur. C'est quelque chose, le narrateur, déjà au théâtre, je ne l'aime pas beaucoup. J'ai déjà vu des pièces de Kleist avec un narrateur chez des grands metteurs en scène à l'Odéon et on a l'impression d'une espèce de facilité, puis on n'a pas tous les jours le génie de Pierre et le Loup. C'est une fois que ça arrive, ce genre de miracle, ou bien certaines merveilles de Néguère. Non, il fallait que le narrateur, c'est-à-dire l'aviateur, devienne un acteur. Par conséquent, passer de l'imparfait, cet imparfait tellement caractéristique de la généalogie du Petit Prince, c'est-à-dire l'histoire des contes, de « Il était une fois » de Perrault, qu'on retrouve. Genre, voilà. Donc ce travail, je l'ai fait, et après, l'autre question, évidemment, qui fait « Le Petit Prince porte une forme théâtrale et opératique dans tout ce que nous avons évoqué », et là, je reviens au livre. On a évoqué le temps de ce livre. Mais il y a quelque chose d'autre dans ce livre, effectivement, qui a ce côté sublime de l'adresse à la fois à l'enfant, à l'adulte, donc à l'humain dans toute sa vie, c'est que le livre, qui est absolument, je dirais, il est sacré le livre ici. Il est sacré parce que d'abord, il évoque le livre sacré. Il évoque le livre sacré parce que on a l'allégorie des jours de la création à travers les 5 jours ou 6 jours du dialogue du Petit Prince avec l'aviateur avant qu'on évoque le passé. Mais en même temps, c'est donc comme un livre d'enfant, vous tournez les pages. Et vous tournez les pages et vous voyez les images, les dessins. Et ce mouvement de tourner les pages de l'enfant... L'enfant qui tourne les pages, donc il lit et il ne lit pas, il regarde, il contemple, voilà, et en même temps il voit la narration. C'est la forme même du passage d'un jour à l'autre dans la structure de l'opéra avant qu'on arrive dans ce qui me tenait à cœur après mes premières expériences d'opéra, que ce soit dans Les Nègres ou dans la métamorphose qui est vraiment le lieu clos, le huis clos familial avec l'irruption de la violence extérieure dans ce huis clos, dans le Petit Prince, évidemment, qui est en même temps une œuvre des années 30, donc contemporaine de cette espèce de confrontation, dialogue entre le théâtre et le cinéma. Eh bien, ce qu'on trouve dans votre sec aussi, chez Alban Berg, c'est ce lien, cette utopie des espaces qui, brusquement, font exploser le périmètre de la scène. Donc, ces éléments-là ont été, je dirais, quand vous demandez comment j'ai procédé, les premières structures du travail sur Le Petit Prince. Et ensuite, et alors là, ça me touche beaucoup d'en parler dans le lieu qui... est tellement qui résonne de toute l'histoire de la langue française. Il y a dans Le Petit Prince une extraordinaire mémoire de l'accentuation et de la prononciation de notre langue. Ça, c'est magnifique, si vous voulez. Il y a d'abord la voix de l'enfant, la voix de l'enfant qui ne vibre pas. C'est une voix de l'enfant avec des consonnes qu'on connaît bien chez l'enfant, c'est des consonnes qui explosent un petit peu parce que l'enfant dit la vérité. Il n'y a pas de préparation au mot. Le mot, il sort de... comment on dit le proverbe, la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, c'est le principe même du Petit Prince.
Donc il n'y a pas d'artifice dans sa manière de s'exprimer.
La vérité sort de la bouche des enfants. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Saint-Exupéry dit sa vérité, la vérité du monde... par la bouche, évidemment, de ce petit prince. Et il y a toutes les prononciations de la langue française, aujourd'hui un peu oubliée, celle avec ses voyelles qui s'étirent vers le haut, ou que j'ai entendu encore chez des personnages comme Maurice Blanchot, ou bien la manière un peu parigote tout de même de parler... je pense à Arletty, j'ai entendu moi-même Arletty dans ma petite enfance... à l'auberge du Mouton Blanc, rue d'Auteuil, avec des personnes parler à midi. Et en plus, c'était le lieu où Molière a lu Le Misanthrope la première fois. Et j'ai entendu Arletty parler là.
Et donc, elle parlait dans la vraie vie comme dans l'Hôtel du Nord.
Absolument. La voix de Jean Gabin qu'on retrouve dans l'ouvrier mécanicien de la SNCF de l'époque du Front Républicain de Blum, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Voilà, tout ça, ces éléments-là. Donc, tous ces éléments-là ont été vraiment à l'intérieur du travail. Donc, Le Petit Prince, c'est la mélodie de la langue française et les comptines des maternelles... qui sont irremplaçables. Il y a une certaine manière de faire tourner les enfants dans une maternelle française où toute classe, toute race réunie, il y a la même éducation. C'est ce qu'on appelle la laïcité française. Eh bien, toutes ces prononciations-là, ces comptines, elles sont dans le chant. Et même, pour tout vous dire, revenu quelque chose d'incroyable dans Le Petit Prince quand il se met en colère contre l'aviateur, quand il lui dit, l'aviateur dit, je vais le dire avec l'accent, j'ai pas le temps, voilà, on connaît cette manière de parler, bon, voilà, et Le Petit Prince lui dit, je connais un monsieur cramoisi, t'es un champignon, mais revenu une chanson que j'ai chantée une seule fois à la communale, en classe préparatoire. Alors, c'était le cours de chant. Et j'avais même quelques années de musique même derrière moi, déjà y compris de la composition. Et bon, on a cru que j'aurais du mal à apprendre la chanson. Donc, alors, je suis arrivé, j'ai chanté la chanson et je me souviens encore du guide chant de l'époque qui m'accompagnait sur chaque temps. Et c'est cette chanson-là qui m'est revenue au moment où je fais chanter Le Petit Prince sur le monsieur cramoisi qui est un champignon, ben c'est la comptine de l'école maternelle avec la prononciation de l'école maternelle. C'est dans le Saint-Exupéry porte en lui dans ce texte non seulement le chant opératique, mais il porte le chant de toute l'histoire de l'accent de la langue française du XXe siècle jusqu'à Saint-Germain-des-Prés et l'après-guerre.
Vous avez illustré que c'était la musicalité que vous avez utilisée, et selon vous, déjà dans les phrases, et je me rends compte en vous écoutant que, en fait, lorsqu'on est compositeur, on perçoit dans une œuvre ce que probablement d'autres ne perçoivent pas. Moi, j'avais perçu un certain nombre de choses dans Le Petit Prince, mais pas tout ce que vous venez de dire. C'est déjà une bonne raison de...
Je voudrais même vous dire après cette question un peu, je dirais presque un peu sociologique, tout même du Petit Prince. La phrase, évidemment, de départ qu'on trouve partout, donc c'est une réponse, vous me parliez, est-on intimidé, oui, c'est « s'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Bon, la relation entre le mineur et le majeur, c'est étrange. Mais il se peut d'ailleurs que je ne me suis pas rendu compte en vous parlant aujourd'hui que, en fin de compte, effectivement, « s'il vous plaît » est en mineur et « dessine-moi un mouton » est en majeur. Et je ne m'en suis jamais rendu compte, c'est vraiment un acte inconscient, c'est très étrange. Et en ayant le plaisir de parler avec vous, que ça me sort. Mais tout de même, il y a là quelque chose de très troublant, si vous voulez. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton », »,« s'il vous plaît, dessine-moi un mouton », ce qui était une scène difficile, pas seulement parce qu'elle est connue, mais parce qu'elle peut paraître... je dirais un peu... Enfin, elle peut paraître... Pour tout vous dire, ma première approche de cette scène, elle a été liée à André Breton et au surréalisme. C'est-à-dire... Et après, j'ai su par la famille que Saint-Exupéry a cherché absolument la reconnaissance d'André Breton sur le plan littéraire à New York et que ça lui a été refusé. Mais tout de même, dire que le vrai mouton, c'est celui qui est dans la boîte... Bien sûr, n'est pas sans m'évoquer ce texte de Breton sur la cuillère chez Giacometti et les allégories de Magritte, c'est-à-dire véritablement un manifeste surréaliste. Et je pense que, bon, comme tout grand créateur, Saint-Exupéry, heureusement, ne savait pas tout ce qu'il écrivait et qu'il a dû penser à ça. Quand il a notamment les dessins, c'est-à-dire les dessins du boa. Le boa, c'est un chapeau, le chapeau, c'est un boa. Enfin bon, c'est véritablement la question de l'allégorie, de la représentation et aussi de la participation du titre à l'œuvre. Mais je suis tombé sur une double paternité, je le dis rétrospectivement. Alors, je n'arrivais pas à construire cette scène et en même temps, dans le deuxième jour, il dit « Mais d'où viens-tu, mon petit bonhomme ?» Et alors, « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ?» Je entendais la scène de l'ange musicien de Saint-François d'Assise, de l'opéra de Messiaen. Alors, je n'arrivais pas à me dégager de ça. Et d'ailleurs, il y a dans c'est une phrase, le chant de « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ?» J'ai longtemps évité, longtemps... enfin, non, pas par refus, mais enfin, j'entends que tout de même l'identité est tellement forte de Messiaen que ce thème, je le chantais comme une psalmodie religieuse du dimanche. Et mais alors, d'où viens-tu, mon petit bonhomme? Bien sûr. J'avais également dans la première scène, dans l'éblouissement ou le trouble de l'aviateur, aussi ce que j'appelle le syndrome du buisson ardent, c'est-à-dire dans le désert, une apparition qu'on est seul à voir. Il n'y a personne d'autre, sauf qu'il n'enlève pas ses chaussures au moment où il voit le petit prince. Et d'ailleurs, d'où d'ailleurs l'intérêt d'ailleurs du retour à le côté prosaïque sur l'avion. Mais en réalité, je suis tombé à ce moment-là sur un texte de mon père qui est un texte sur cette scène de la boîte et du mouton. Il ne l'interprète pas du tout comme une chose surréaliste, mais il l'interprète comme véritablement l'impossibilité d'approcher la vérité. Il faut accepter qu'une partie de la vérité soit au fond de la boîte et qu'on se retrouve. Alors évidemment, cette dimension-là qu'on va retrouver dans toute la structure du Petit Prince, entre le mouton, le vrai mouton, c'est dans la boîte, ou d'où viens-tu, mon petit bonhomme, où l'essentiel est invisible, mais en même temps, pour qu'un jour ne ressemble pas à l'autre, il faut qu'il y ait un rite. Et effectivement, le lien crée ce terme tellement troublant pour l'humain de savoir quel est mon lien à l'autre et en quoi l'autre est unique. L'autre est unique par le lien en fin de compte, devant le trouble du singulier pluriel qu'il rencontre en voyant les 5000 roses, à un moment donné, le renard rappelle qu'il y a le singulier, le féminin, féminin pluriel, le féminin singulier. Et il y a le lien avec la rose. Donc il faut partir. C'était
oui,
ça le travail.
Bien, il explique au petit prince que sa rose est unique parce qu'il lui a consacré du temps, de l'amour et de l'attention. Ça peut...
Parce qu'il a consacré le lien.
Donc c'est le lien entre la rose et le petit prince qui fait qu'elle est unique. Elle n'est pas unique en elle-même, c'est ça ?
C'est toute la question. C'est toute la question. C'est tout le trouble. Ça, c'est vraiment l'ouverture du texte. C'est vraiment probablement que l'unique se fait par le lien. Oui, bien sûr, parce que tout sinon, chaque jour se ressemble. C'est vraiment très judéo-chrétien.
En quoi ?
Ah, mais c'est très judéo-chrétien. Dire l'exigence du rite pour que quelque chose existe est quelque chose d'absolument fondamental. D'ailleurs, très extraordinaire, d'ailleurs, dans les traditions hébraïques, hein, on met le faire avant l'étude. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude du texte prend son sens par le faire, par le rite. Et le renard enseigne ça au petit prince. C'est-à-dire que rien ne se mélange à partir du moment où il y a le rite. Donc c'est vraiment un texte très, très important.
Comment procède-t-on ce qui est formidable avec ce petit prince, c'est qu'à la fois le sens reste lui aussi dans la boîte, je trouve, et à chacun de l'imaginer, de lui donner corps, de le travailler, probablement au fil d'une vie, comme on peut le faire justement avec un texte sacré, on progresse dans son appréhension. Et en même temps, le petit prince, lui, et là c'est une grande différence, je trouve, avec les textes sacrés, c'est qu'il a un visage, il est présent. Lorsqu'on questionne qui que ce soit dans la rue, comment est le petit prince ? On sait qu'il est blond, bouclé, visage enfantin, qu'il est paré comme un prince, justement. Comment gère-t-on ça quand on doit faire une œuvre comme un opéra ? On est, j'allais dire, coincé dans la fidélité, ou est-ce qu'on est bridé dans sa capacité d'interprétation, ou au contraire, c'est à nouveau une contrainte ?
Je n'ai pas travaillé l'image du petit prince, je n'ai pas travaillé l'image du petit prince sur le plan de la mise en scène. La mise en scène est assez remarquable. C'est vrai que c'est Lee Lobor qui a fait ce travail avec un assez grand décorateur américain, Crunch, qui a reconstitué notamment le caractère pictural des livres pour enfants sur les contes des années 50. C'est-à-dire qu'il y a un ciel bleu, mais un peu comme on pouvait le voir dans... pour Blanche-Neige, enfin des livres de mon enfance, enfin, c'est assez beau. Là-dessus, c'est une véritable invention. Je répondrai autrement. Je dirais d'abord qu'il y a des... Je ne sais pas si c'est les cheveux blonds, si c'est l'écharpe, si c'est la tenue qui était l'enjeu. Il y a dans le texte du cheveu blond, il y a dans les textes, dans le texte une écharpe, il y a dans les textes, le texte de Saint-Exupéry, le costume de l'enfant. C'est ce que je vous parlais sur le plan du phonème. Alors effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure les comptines. J'ai travaillé avec une jeune actrice, plasticienne, j'avais déjà travaillé avec elle pour le rôle de la sœur dans La Métamorphose. C'est pas une personne qui pouvait le chanter, c'est pas une chanteuse professionnelle. J'ai travaillé avec quelqu'un qui avait, écoutez, je ne peux pas expliquer, qui avait un accent normand. Et je savais, alors c'était des journées entières où la phrase, enfin parlons, je peux plutôt vous répondre en phrase de Saint-Exupéry qu'en termes de cheveux blonds. C'est certain que je n'ai pas donné au petit prince une seconde augmentée comme on pourrait l'entendre dans certaines musiques populaires de culture externe à la France. Ça, c'est certain. Il y avait des tournures de phrases qui progressivement passaient de la prononciation à la mélodie. Et surtout, faire très très attention à la totale évidence de la mélodie et encore autre. Alors là, mettons, j'aborde une question musicale, plus technique. J'ai beaucoup parlé du texte jusqu'à présent, nous en avons parlé. Musicalement, Le Petit Prince, un de mes travaux, les orchestraux les plus fouillés que j'ai pu jamais faire, c'est-à-dire avec une électronique qui, contrairement à ce que j'ai pu faire dans le passé, notamment même dans La Métamorphose, qui est un de mes précédents opéras, qui va être repris cette année à Paris, à l'Athénée, le langage, les mélodies du Petit Prince. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à la question de la grâce du Hörspiel mozartien là-dedans, parce que la phrase mozartienne a cette grâce sur le plan mélodique et sur les accentuations qu'on peut parfois relier à l'enfance. Je pense qu'il ne faut pas le nier. J'ai souvent eu des hallucinations étant persuadé que l'enfant au Toton de Chardin était un portrait de Mozart. Mais il y a évidemment, donc, comme je traduis, j'entends les choses en musique, ces phrases mélodiques, on ne peut pas les entendre ici à la radio, mais peut-être on pourra le trouver sur Internet, dans d'autres sites. Mais ces phrases sont accompagnées ou sont harmonisées par notamment un travail, là je pense que les spécialistes me comprendront, un travail sur la désinence du son lui-même. C'est-à-dire que le piano dans l'orchestre du Petit Prince est très important. Et le piano, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un instrument véritablement à hauteur stable. Ce n'est pas seulement Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais si vous écoutez bien un Do, si vous écoutez bien un Ré, si vous écoutez un Do dans le grave, si vous écoutez un Si bémol dans le grave avec un Ré dans le suraigu, comme on la trouve dans la dernière variation de la sonate au puissance de Beethoven, vous constatez que le son descend progressivement. Et acoustiquement, c'est analysable. J'ai donc trouvé des sons de piano que j'ai travaillé à l'IRCAM, l'Institut de Recherche Coordination Acoustique Musique, service public parisien. J'ai travaillé à accentuer la désinence des sons de piano et de confier certaines comptines à ces sons de piano qui sont très proches de ces voix d'enfants qu'on peut trouver encore dans La Guerre des Boutons ou qu'on peut encore trouver dans des films de Clouzot ou dans la voix de l'enfant dans une cour de maternelle dans un film en noir et blanc des années 30 ou 40. C'est une voix spéciale. C'est ce que j'appelle la vérité sort par la bouche des enfants. Et alors, bien sûr, ces comptines sont traitées polyphoniquement, mais surtout harmoniquement. J'ai travaillé sur des polyphonies, c'est un long travail, sur des polyphonies d'accords en grappe, je ne sais pas comment expliquer ça autrement, qui superposaient un piano tempéré acoustique avec des échantillons de sons en désinence de piano, mais néanmoins joués d'une manière pianistique et virtuose, donc dans une sorte de polyphonie de, je dirais, d'échelle superposée, un peu comme, je pense, Messiaen a dû le pressentir, notamment dans Saint-François, dans ses polyphonies, qui, surtout, ces grilles harmoniques, je dirais, dessinent et accompagnent le sens de la phrase. C'est certain que Le Petit Prince revendique, c'est pas un texte de déconstruction, c'est bien un texte qui est dans l'héritage de Colette aussi, c'est un texte qui est où la syntaxe est extrêmement raffinée et le langage musical exige que le langage harmonique, je dirais, dessine une forme de syntaxe. D'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans l'écoute musicale des textes du système tonal du 19e siècle. C'est encore ce que j'admire aussi dans la musique de Gabriel Fauré. C'est une des forces de sa mélodie, en sens-là, très verlainien. Je ne sais pas si l'adjectif existe, mais en tout cas, dans l'esprit de Verlaine. Bon, nous sommes plutôt dans ce type de généalogie avec Saint-Exupéry, non pas que je ramène Saint-Exupéry à Verlaine, mais c'est tout de même une autre esprit de la langue française, par exemple, que l'influence mallarméenne qu'on peut trouver dans la musique contemporaine des années 70, je pense à Plis Lompli. Donc c'est vraiment un acte assez singulier d'avoir commandé à un compositeur comme ça un texte sur Saint-Exupéry, et c'est une, non pas une confrontation, mais une rencontre avec une forme de syntaxe musicale. Et ça a été le grand travail, pardon, dans la scène du Baobab, le grand travail que j'ai fait sur cet opéra sur le plan musical, et vraiment une sorte de régénérescence.
Alors de façon un petit peu plus prosaïque, je suis désolé, je redescends, mais je ne peux pas aller à l'autre altitude.
Nous sommes au quatrième étage et on voit la scène, c'est magnifique.
Dans le dispositif utilisé, il y a bien sûr des chanteurs, il y a un orchestre.
Vous avez raison.
Avec donc un piano qui a un rôle important.
Vous voulez me demander qu'est-ce concrètement il se passe dans la fosse? Alors il y a six personnages.
J'ai lu et vu qu'il y avait aussi un dispositif électronique. Peut-être à cela que vous faisiez référence également, qui se superpose qui est utilisé.
Qui ne se superpose pas, qui fait partie. C'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Dans la commande, dans le contrat passé avec le maître d'œuvre, Éric Vigier, finalement, cet homme-là, je trouve assez. Bon, la famille Saint-Exupéry était assez extraordinaire, m'a tout à fait laissé adapter les choses. J'avais un orchestre Mozart. J'ai obtenu, en négociant le piano et le piano virtuel sur clavier. C'est un travail de mixture assez long. Et il y a, j'allais dire, six personnages, c'est pas en quête d'auteur, il y a six personnages dans Le Petit Prince, si je ne me trompe pas. Il y a Le Petit Prince qui est chanté par une soprano, Jeanne Crouzeau, aujourd'hui. Il y a l'aviateur, il y a le renard qui en même temps joue le serpent, et il y a la rose, et il y a
l'ivrogne.
Alors oui, l'ivrogne, oui, les personnages, il y a des sortes de sketchs au milieu de l'opéra. Il y a l'ivrogne, le businessman. Voilà. Alors ils sont joués alternativement, c'est les mêmes personnages. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément au théâtre. J'ai fait ça dans un. Mes premiers opéras, c'était la conférence des oiseaux, d'après le texte de Attard. Si vous voulez, au théâtre et à l'opéra, je ne ressens parfois trop de, je dirais, trop d'illustration en confiant un personnage. Non, ce sont des personnages interchangeables qui se métamorphosent pendant l'action, et qui arrivent et qui sortent. Et c'est évidemment le businessman, tous ces éléments, on n'a pas le temps ici de développer ça, mais ce sont des catégories très importantes. Vous vous rendez compte, le businessman, évidemment, ça n'aurait pas été possible sans les mathématiques de l'enfant et les sortilèges. J'en suis certain que Saint-Exupéry connaissait l'enfant et les sortilèges de Ravel et le texte de Colette. Mais le businessman, c'est autre chose. Le businessman, c'est quelqu'un qui a déjà conscience, enfin, ou qui a encore conscience, ou qui a, comme tout le monde, conscience du caractère totalement, je dirais, abstrait et finalement tout à fait arbitraire de la notion de marché ou de la notion de valeur, marchand, de propriétaire. C'est-à-dire que l'écriture du fond, c'est extraordinaire de pouvoir dire qu'on ne peut rien s'approprier. Je veux dire, à la rigueur, on peut s'approprier l'écharpe. Mais le reste, à la rigueur, c'est une écriture qu'on met dans une banque.
Oui, ce ne sont que des signes.
Oui, oui.
Peut-être dépourvu de sens d'ailleurs, mais ce ne sont que des signes.
Oui. Oui, c'est les crises économiques sont toujours un hommage au businessman. Hein.
Ce passage, effectivement, est saisissant. Et
c'est Madoff.
Le personnage du, voilà, que vous appelez le businessman, qu'on peut appeler le financier aussi, je crois, est absolument fabuleux. Et le voir, c'est sidérant.
Ah oui, bien sûr. Et le roi, la notion du pouvoir est évidemment repensée de manière très allégorique. Le roi qui cherche un sujet, qui cherche. En plus, il y a plein d'évocations pour moi. Par exemple, quand il dit, le roi dit au petit prince, tu vas être ministre de la justice. Tiens, il y a un rat, tu pourras le condamner à mort. Ça me fait toujours penser à la conclusion de l'avare de Molière. Je ne sais pas si je pense que vous en souvenez. La chose extraordinaire, la question de l'avare de Molière, la fin de l'avare de Molière. C'est la phrase du roi. C'est-à-dire, quand il faut payer le notaire, il dit, mais prenez Maître Jacques, je vous donne cet homme-là à pendre. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas très important. Et le petit prince dit, je n'aime pas condamner à mort. C'est bien avant Badinter.
C'était difficile de sélectionner ces personnages parmi la succession de
tableaux. Non, très, très, très naturel. Mais je vais vous faire une confidence. la phrase, la section la plus facile. Mais je dois le dire aux auditeurs, j'ai deux charmantes personnes féminines qui sont ici dans la salle, et donc je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais enfin, c'est la scène de la scène de la rose. C'est la scène de la rose. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je lui ai trouvé un nom, je lui ai inventé un nom, un accident anglo-saxon, un accent anglo-saxon. La rose qui se réveille, et alors véritablement, le petit prince là devient homme, mais il est déçu. Il est déçu parce que la rose demande un petit déjeuner. Voilà. C'est-à-dire, comment une personne aussi sublime qui se réveille a besoin d'un petit déjeuner? Et alors, évidemment, ça entraîne une rupture. Une rupture, et elle le laisse partir, et après elle lui dit « mais oui, je t'aime ». Et alors ça, cette scène, écoutez, c'était la première mélodie qui m'est venue très naturellement. Et d'ailleurs, cette mélodie, j'ai retrouvé les accents de l'orchestration ravelienne, pas de l'Enfant et les Sortilèges, mais plutôt ici de la scène des arbres, le cœur des arbres qui se plaint dans l'Enfant et les Sortilèges, ou la fin de la valse de Ravel, c'est-à-dire... encore une fois, les désinences, des sons qui s'inclinent, qui pleurent progressivement et qui se transforment en souffle. Et ça, c'est une orchestration. Toute ma vie, j'étais préoccupé par cette question de cette invention du son ravelien qui n'est pas debussiste, qui est unique au XXe siècle, que personne n'a développé véritablement. Et Ravel est le seul à avoir vraiment entendu au XXe siècle, à travers le système dit harmonique classique, parce qu'on dit qu'il est plus classique comme sentiment que Debussy. Effectivement, la forme ravelienne n'est pas la forme de jeu de Debussy. Mais alors, il entendait véritablement les sons, comment l'instabilité des sons, dans leur relation avec leur stabilité. Et donc, les sons progressivement dérivent lentement. Il a dû très bien entendre le piano. Et c'est la scène qui m'est sortie, la première. C'est le point de départ du Petit Prince. C'est le petit déjeuner de la rose qui se coiffe.
C'est la première des désillusions, non ?
Mais en même temps, c'est pour ça que c'est très important. Cette désillusion, elle est dérisoire par rapport à la responsabilité vis-à-vis de la rose et du féminin singulier. Voilà. Pas plusieurs femmes, une seule.
Effectivement, on retrouve là un thème sacré, comme vous le disiez, comme vous le disiez au début.
Oh, Jacob a eu beaucoup de femmes.
Hein. Dans ce déroulement, les interprétations du Petit Prince, je vous obligeais à vous dévoiler un petit peu. Vous le voyez finalement, moi je l'ai toujours ressenti petit, hein, comme une œuvre tragique finalement. Et notamment en raison de la sortie. Ah. Mais évidemment, on peut dire que...
J'ai eu une longue discussion avec la personne avec laquelle je partage ma vie, en tout cas l'essentiel, c'est la philosophe Danielle Cohen-Lévinas, moi, qui est toujours... elle est plus exigeante que la rose, hein, malgré tout. C'est-à-dire qu'elle n'a cessé de me dire « Attention, attention, la fin du Petit Prince n'est pas vraiment totalement tragique. Il y a le rire, très très important. Et ce rire, ça sera le rire des étoiles, mais c'est aussi, je dirais, l'énigme. C'est-à-dire, ce n'est pas la fin de la métamorphose. Ce n'est pas la mort d'Isolde. Ce n'est pas la mort de Mélisande. C'est quelque chose, simplement, le petit prince dit, ce soir, j'aurai l'air de mourir, j'aurai l'air d'avoir mal, ne viens pas. Donc, il faut laisser l'énigme ouverte, malgré les tentations et malgré la séparation. La séparation avec l'aviateur. Et d'ailleurs, il y a, dans tout opéra, une trahison. Généralement, c'est très curieux, il y a de l'opéra effectivement dans Le Petit Prince, c'est qu'il y a une trahison du Petit Prince vis-à-vis de l'aviateur avec le serpent. Ça, la famille Saint-Exupéry a du mal à l'accepter. Mais il y a bien une complicité qui se rejoue entre le serpent et le Petit Prince sur cette question du venin. Et à ce moment-là, dans ma pièce de mon adaptation, je fais intervenir brutalement l'aviateur comme s'il était trahi. En disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu discutes avec les serpents? C'est un peu la scène de Golo à La Fontaine avec Mélisande. Et d'ailleurs aussi, il y a dans le texte, dans le mystère du Petit Prince, chez Saint-Exupéry, il y a des traces de Maeterlinck aussi. C'est-à-dire la scène à la Fontaine. J'ai supprimé La Fontaine dans l'adaptation du Petit Prince, pensant que c'est trop cinématographique pour une forme opératique. Mais à partir de là commence la séparation. Mais cette séparation, elle est sur le rire. J'aimerais t'entendre rire, j'aimerais t'entendre rire, j'aimerais, je te ferai un cadeau, le rire du ciel, le rire des étoiles. Donc c'est tout de même plus complexe ce qui s'est passé dans l'avion quand Saint-Exupéry, en métaphysicien parfait, quittait le monde pendant des heures et des heures et s'est sacrifié, lui, dans le conflit avec le nazisme, alors que le Petit Prince ne se sacrifie pas. Il s'en va rejoindre son amour, mais où ?
Non, c'est pas moi qui il quitte un monde qui ressemble diablement au nôtre. Hein.
Au monde de toute l'histoire. Oui, bien sûr, au monde, ça fait partie de la structure même de l'humain, oui, oui. Et de l'angoisse, même, j'ai une banalité métaphysique, c'est pas ça, l'angoisse de l'infini, c'est-à-dire quelque chose, ça même au théâtre, exprimer cette angoisse de l'infini, alors que c'est le lieu du périmètre, c'est tout même une expérience très forte, surtout avec un public qui connaît le texte par cœur.
Vous pensez qu'il y a une rédemption dans le texte? Et peut-être dans votre mise en scène, est-ce qu'on peut avoir fût-ce l'espoir d'une rédemption? Vous parlez d'un livre sacré. Livre sacré, il y a souvent l'espoir d'une rédemption. On était dans la tradition judéo-chrétienne. Bon,
je suis d'une tradition judaïque et judéo-chrétienne. Les liens sont tout de même importants et dans l'histoire de ma famille, importants, à tous les sens, parce que je ne serais pas là s'il n'y avait pas un monde chrétien. Je ne serais pas venu, quoi. Mais tout de même, j'ai une formation par rapport à la question théologique qui n'est assez dure, enfin, qui vient de la tradition intellectuelle de mon père, d'un judaïsme qui est un judaïsme lituanien, qu'on appelle en hébreu Mitnaged, non pas qu'il n'est sans espoir, pas du tout, mais qu'il n'attend pas l'espoir pour considérer que l'enseignement du renard est très important. Voilà, donc je n'ai pas de réponse là-dessus.
La réponse sera probablement dans le texte lui-même et probablement dans le para, à chacun justement de les découvrir.
Peut-être, oui, peut-être.
Nous arrivons maintenant au terme de notre émission, mais pas tout à fait, car nous allons la poursuivre quelques instants pour le plaisir en découvrant deux courts extraits du Petit Prince adaptés par Michael Levinas pour la scène lyrique. Ces extraits ont été enregistrés lors d'une pré-générale. Ils nous ont été confiés par Monsieur Levinas. Merci beaucoup d'ailleurs. Nous allons commencer par écouter la scène célèbre de l'allumeur de Réverbère. Merci de votre fidélité. Bonne écoute. Régalez-vous avec le Petit Prince.
Autrefois, c'était raisonnable. J'ai gagné le matin, j'allais.